J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à être ici avec vous tous dans ces lieux et avec vous, Antonia. Et aussi, c'est un grand honneur parce que vous êtes pour moi l'un des écrivains les plus importants et les plus passionnants de cette époque. Et je pèse mes mots, ça n'est pas une formule. Par la qualité de vos livres dont Marc Poré a très bien parlé et puis aussi par leur originalité. Parce que peu d'auteurs ont, comme vous l'avez fait, réussi à attraper le monde par autant de côtés différents. Vous incluez dans vos romans un nombre incroyable de matériaux que vous vous êtes appropriés. La science d'abord, et quand j'entendais parler de la manière dont la science et la littérature en ces lieux doivent se donner la main, je crois qu'il n'y a pas d'écrivain plus approprié que vous, Antonia Bayat, pour incarner cette ambition, puisque la science vous intéresse et que vous avez transformé la science en matériau romanesque, ce qui n'est pas un mince exploit, et de façon très précise. En particulier, je pense que c'est dans la Vierge dans le Jardin, surtout, c'était très impressionnant. Donc la science, l'histoire, la poésie, le conte, les arts plastiques et j'en passe. Et puis ensuite, vous métabolisez tous ces matériaux pour en faire des romans. C'est vrai dans votre tétralogie, c'est vrai dans Possession, c'est vrai dans tous vos autres livres, Des anges et des insectes ou plus récemment, Le livre des enfants. Cette manière de travailler procède d'une ambition qui consiste, je pense, à retrouver une forme d'unité du monde, mais peut-être que vous nous en parlerez, peut-être que... je ne sais pas comment cette phrase résonne en vous, et aussi d'une méthode dont j'espère que vous accepterez de nous parler, parce qu'elle est très importante dans votre travail. Avant cela, je voudrais vous poser une première question qui porte sur l'origine de l'écriture. Dans La fin des dieux, qui est un livre paru l'année dernière, en France en tout cas, vous évoquez une petite fille qui pourrait être vous, au moins par la génération, cette petite fille découvre très vite qu'elle veut écrire. Et cela part d'une question pour elle, qui est aussi celle que se posent les scientifiques, les historiens. Cette question, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment cette question mène à écrire des romans ?
Je me suis posé cette question comme toute petite enfant. Et je n'ai jamais trouvé de réponse. Mais un roman, c'est un monde secondaire. Je n'ai jamais utilisé le mot création pour ce que j'écris. Et creative writing, je déteste parce que ça a l'air d'être religieuse. Et c'est plutôt construire quelque chose auquel je pense. Mais j'ai essayé et j'ai essayé comme enfant d'imaginer l'absence des choses. Et si on essaie d'imaginer l'absence, la présence devient immense. Il y a tant de choses qui nous entourent. Alors je me suis dit, je vais regarder. Quand j'ai su lire, je me suis dit immédiatement, il faut écrire. Il faut pouvoir mettre les mots dans cet ordre. Et ça a quelque chose à faire avec la question de est-ce qu'il y a quelque chose ou pas. Est-ce que, pourquoi y a-t-il un monde? J'ai toujours voulu que ce ne soit pas une religion. Mais peu à peu, j'ai essayé d'inclure des choses dans mes romans. J'ai commencé avec les sentiments des jeunes et je n'ai jamais voulu écrire sur mes sentiments, sur ce que j'éprouvais. C'était toujours ce qu'on pouvait savoir du monde. Pourquoi y a-t-il quelque chose? Au moins, il faut savoir comment sont les choses. Et chaque fois que je trouve un livre qui me décrit comment sont les choses, je fais comme Coleridge. Et je lis toujours les notes. Et je lis tous les livres qui se trouvent dans les notes. Et ça me décrit un peu les choses qui existent. et je n'arrive jamais à la fin. Mais ça, c'est bien.
La connaissance, c'est très important. La littérature, ça n'est pas fait pour vous exprimer, c'est fait pour connaître.
Oui, c'est ce que j'aime dans la littérature. Se dit, il faut être ému, beaucoup ému, mais il ne faut pas y penser. Pour moi, je crois que je ne suis pas tout à fait comme les autres écrivains. Je n'ai jamais voulu m'exprimer. J'ai vu savoir, j'ai voulu savoir. Mais en disant ça, je n'écris pas des romans pour instruire. J'écris des romans pour reconstruire, pour regarder si ça a du sens.
Oui, mais ça veut dire que quand vous vous posez la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» la réponse était en partie « Pourquoi ce quelque chose est si décevant ?» puisque si. Si décevant, puisque je vais reconstruire autre chose
oui,
à la
c'est
place.
Ça. Et chaque fois qu'on regarde ce qu'il y a, il se représente, il est toujours différent. Rien n'est comme... Je prends le New Scientist magazines, periodicals. Je ne prends pas les périodiques littéraires, je prends les périodiques scientifiques, économistes, politique dont je ne sais rien. C'est un peu pour échapper au monde littéraire. ça va exister, quoi que je fais.
Est-ce que vous avez parlé de l'émotion? Vous avez dit qu'il faut être ému, mais il ne faut pas le savoir. C'est-à-dire, quelle part d'émotion, comment se manifeste l'émotion? Excusez-moi, je ne suis pas en train de regarder mes mails, je voudrais juste pouvoir enregistrer. J'ai oublié de me le mettre en marche avant. Vous permettez que j'enregistre?
Oui, volontiers.
Allez-y. Voilà. Oui, l'émotion.
Il y a des moments dans chaque roman que j'approche. En quatre chapitres, il y aura un grand sentiment, il y aura quelque chose d'effrayant. Et j'approche peu à peu. Et dans un roman que j'ai écrit, ça ne pouvait pas prendre place quand j'y suis arrivée. Il n'y avait rien. Je me suis dit, ça n'a pas pu être. Il faut reconstruire toutes ces histoires que j'approchais. Et c'était parce que l'émotion n'était pas là ou n'était pas vraie.
La vôtre? La vôtre, l'émotion?
L'émotion dans le roman que je me sentais approchée. N'existait pas quand j'y suis arrivée. Il y avait une femme qui devait aimer un homme qu'elle aimait, mais elle devait aller dans son lit. Et quand ils étaient ensemble, j'ai trouvé que c'est absolument impossible. Les émotions prohibites.
Interdites.
Interdites. Ça ne va pas arriver, pas du tout. Il faut recommencer et réécrire et trouver une autre émotion. Alors, je pense beaucoup aux émotions comme la ponctuation d'un roman, autant que la raison d'être d'un roman. Ils ne sont pas la raison d'être. Le roman, c'est tout un monde. Iris Murdoch a dit une chose très, très belle, je pense. Elle a dit que quand elle arrive à la fin d'un roman, qu'elle écrit, elle a très envie de le réécrire avec d'autres personnages au centre parce que c'est seulement une manière de regarder son monde. Et il y a tous les petits personnages qui, dans leur vie, sont de grands personnages et toutes les petites idées qui sont en effet des grandes idées. Alors on pourrait, en principe, continuer pendant toute une vie à écrire et réécrire le même roman.
Sous des angles différents.
Oui, oui. Et, mais je ne fais pas ça. Mais j'ai tout à fait compris ce qu'elle a voulu dire. Et le roman que j'écris en ce moment, je me dis tous les jours, il y a trop de personnages. Les lecteurs n'aimeront pas ce roman parce qu'ils ne pourront pas le prendre, le grip it.
Ne pourront pas les
grip.
Ah oui, ils ne pourront pas s'en emparer.
Oui, c'est ça. Merci. Mais ils se plaignent, mais ils lisent quand même.
Ils sont captifs.
En Allemagne, où l'on est très pratique, on écrit maintenant des listes de personnages au commencement. Ce que j'aurais dû faire en Angleterre et les États-Unis, mais...
Les personnages apparaissent à quel moment dans le processus ?
Là, c'est très intéressant. Quand j'avais 20 ans, je crois, toujours à l'université, j'écrivais un roman et je le réécrivais dans les conférences, partout. Je portais ce roman et je le refaisais parce que je savais que c'était mauvais. Et je savais que c'était mauvais parce que je ne savais rien. Il n'y avait que moi-même à construire le roman autour de. Et une très mauvaise phrase. Mais. Et ça me rendait très triste, mais ça m'a aussi montré où il fallait aller. Il fallait trouver un monde un peu plus grand, et puis un monde encore plus grand et plus difficile. Et maintenant, dans les deux premiers romans, le premier, il y avait une jeune femme à peu près comme moi, et je n'ai jamais refait ça. Je n'ai pas dû me utiliser comme le centre de mon écriture. Et j'ai toujours deux ou trois personnages qui ont quelque chose en commun avec moi.
Oui.
Mais j'ai toujours aussi des personnages sans littérature. J'avais un curé dans la tétralogie. Et dans le roman que j'écris, si je n'ose pas approcher, mais il y a toujours quelqu'un, c'est même un peu une règle, il faut avoir quelqu'un qui ne pense pas avec la langue avec laquelle je pense. Alors, quand j'ai écrit la tétralogie, c'était surtout pour... Oh, il y avait deux raisons. Il y avait Proust. Quand j'ai lu Proust, je me suis dit, il faut écrire long, avec beaucoup de personnages. Et le monde est moins faux, plus long, et le roman. Et aussi, j'avais de très petits enfants, et il faut s'interrompre tout le temps. Alors, je portais avec moi des cahiers, avec des notes pour quatre romans. Et quatre romans, c'était beaucoup plus facile qu'un seul à entrer dedans et habiter. Même avec les enfants, je me suis rendu compte que ce n'est pas très juste d'être écrivain et avoir des enfants. c'est pas bon pour les enfants.
Mais est-ce qu'ils se plaignent ?
Elles se plaignent un peu maintenant.
Les enfants se plaignent toujours de quelque chose.
Oui.
Si vous aviez été coiffeuse, ils seraient pleins aussi, c'est pareil.
Oui, c'est vrai. alors, après cela, j'avais pris confiance et j'ai pu créer des personnages qui n'avaient rien à faire avec moi. Et l'histoire de la construction des romans. Au commencement, il y avait les personnages et le drame. Et puis il y avait les idées. Et le roman que j'écris, j'ai déjà mis 4 ou 5 ans à penser. Et je sais ce dont il s'agit, c'est l'Europe entre 1918 et 1938.
Celui que vous êtes en train d'écrire maintenant. Celui que vous êtes en train d'écrire maintenant.
Oui, oui. Mais j'ai pensé ce qui était vraiment un roman pendant ces 4 ans, sans personnage. Je me suis dit, il y aura une femme qui pensera un peu, à peu près comme ça, peut-être. Et j'ai écrit des cahiers. J'ai de gros cahiers comme ça, avec beaucoup de pages et beaucoup de lignes. Et j'ai écrit des notes. Et maintenant que je suis vieille et j'oublie les choses, si on relit 4 ou 5 gros cahiers pour un roman, on se rappelle de tout ce qui doit être là-dedans ou qui doit être rejeté. J'ai travaillé assez intensément avec les cahiers et avec la lecture sur l'Europe. Son personnage. Et un jour, les personnages sont arrivés. Très, très vite. Et c'était comme des plantes qui poussaient. Il y avait de la terre que j'avais créée. I can't think of Doug.
Que vous aviez bêché.
Oui, oui. Et tout d'un coup, il y avait les plantes, les fleurs, les légumes qui sortaient de tout ça. Et je me suis dit, oui, il y a un homme qui fait ça, et il y a cette femme qui va aller à Vienne, et puis elle va aller à Berlin, et puis à Paris, et je sais exactement à peu près pourquoi elle va y aller. Et c'était très étrange. Et j'ai passé toute une semaine à rencontrer les personnages.
Faire connaissance.
Je suis un peu comme un lecteur. Forcément, il y aura quelqu'un comme ça. Et puis je vois le costume, je vois ce qu'ils lisent. Et ils sont des personnes. Et ça n'est jamais arrivé comme ça.
Avant.
Mais j'allais toujours vers cet état. De plus en plus, je trouvais les personnages de plus en plus tard. Et je créais le monde. Et je ne peux pas enseigner l'écriture. J'enseigne la littérature. Mais j'ai eu une classe d'écriture pendant, je crois, un mois, quand je n'avais pas d'argent. Et j'étais assez jeune. Et il y avait un jeune homme qui m'a dit, j'ai beaucoup de beaux personnages, des personnages que je connais absolument, mais je ne sais pas dans quel siècle je vais les mettre. Et je me suis dit, mais tu ne peux pas. On ne peut pas créer des personnages qu'on connaît si on ne connaît pas la société dans laquelle ils sont.
Ils évoluent.
Non, ils ne les connaissaient pas. Ça a dû être des images de soi-même. Enlevé de soi-même, pulled out of them.
Projeté en dehors.
Oui, oui. Et c'était très. Et je lui ai dit, mais il vous faut trouver un siècle et puis voir comment le siècle va les changer.
Et vous, dans les recherches préliminaires que vous faites, les 4 ans de lecture et de lecture essentiellement que vous faites pour préparer le terreau. Oui. Sur lequel vont pousser ces personnages en grand nombre. Hein, cette fois, ces personnages ont poussé beaucoup à la fois. Mais oui. Quand vous faites ces recherches-là, le fait que le cadre que vous allez installer pour eux soit véridique. C'est très important.
Oui. Je me demande... je vais tousser. Merci. Oui, il y a la question qu'on a posée sur William Golding, qui a écrit Lord of the Flies. Et il y avait un jeune, un garçon, qui avait des lunettes. Et on a allumé un feu avec le soleil et ses lunettes. Et puis, on lui a dit que la maladie des yeux qu'il avait donnée à ce garçon n'aurait pas produit des lunettes qui pourraient allumer un feu. Est-ce que ça est très important ou pas? Et Golding lui-même, il pensait que c'était important, je pense. Et moi, je pense que c'est important. Et quand même, le roman me fait du mal au cœur comme il le faisait avant. Et les deux choses se tiennent dans ma tête, côté à côté. Le fait qu'il n'est pas véridique, que c'est la fiction. Et le fait que les personnages ont beaucoup souffert quand même, et on a souffert comme lecteur avec eux. Et je sais que j'ai dû écrire des choses qui n'étaient pas véridiques. On met des mots dans les conversations qui ne sont pas de la période, même si on a essayé, si on a beaucoup lu pour avoir l'oreille d'entendre les conversations. Mais il y a des gens qui écrivent des romans dits historiques avec un dialogue assez moderne. Et ça, je n'aime pas. Ça, c'est un mensonge.
Est-ce que vous pouvez me préciser, quand vous dites « le roman m'a fait mal au cœur », vous avez dit « le roman m'a fait mal au cœur ». Non, j'ai mal compris.
Mon roman, Golding.
Ah, celui de Golding. Oui. D'accord. Oui.
Non, j'évite dans cette conversation de vous dire que mes romans me font mal au cœur.
Oui, c'est pour ça que je voulais être sûre d'avoir mal compris.
Alors, je parle de ce que je pense et de ce que je... Mais ce que j'éprouve, je cache.
Ah, donc peut-être qu'ils vous font mal au cœur.
Ah oui, non, il fait mal au cœur, certainement. Et j'ai tué, je dis que j'ai tué, voilà, un de mes personnages. Oui. Et c'était quelque chose de très...
Vous avez tué un personnage?
Oui, et j'avais l'intention, avant de créer ce personnage, de le tuer, de la tuer. Et je me suis dit, on ne peut pas décrire une mort accidentelle qui paraît vraiment accidentelle, parce que le roman, la forme du roman, mène vers cet accident. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut écrire un accident vraiment? Et je me suis dit, il faut avoir plusieurs personnages aussi importants l'un que l'autre. Alors, on ne sait pas qui va subir la mort tragique, parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient. Alors, c'était un peu pour ça aussi que j'ai écrit 4 romans successifs pour pouvoir étaler plusieurs personnages. Bon, et je me suis dit, je vais écrire un accident entre 2 pages tout à fait inattendu. Et puis, j'ai eu un accident moi-même, inattendu. Nous avions une cuisine, j'étais à Durham, mon mari était de la faculté à Durham. Et nous avions une maison qui regardait la cathédrale, qui était plus proche que le mur là-bas. Et le chat avait attrapé un moineau. Et le moineau s'est caché sous le réfrigérateur. Et j'ai essayé de le sortir avec ma main. Et le réfrigérateur m'a pris comme ça, m'a fait... Et heureusement, mon mari était plus intelligent que les personnages dans mon roman. Et il a éteint l'électricité. Mais j'ai toujours une marque. Et je me suis dit, voilà une méthode pour tuer un personnage comme un accident. Mais là, je vous ai dit que c'est arrivé à Durham parce que il y a Bede, le vénérable Bede, qui décrit la vie comme un moineau qui traverse une halle. Et il est enterré derrière le mur où allait mon moineau. Alors, ça c'est de la poésie inattendue. Et je n'ai pas pu écrire ça parce que les personnages n'étaient pas à Durham. Mais ça va comme ça, et puis...
Et est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu de ces cahiers qui sont très intrigants? Il me semble, quand j'ai vu ces cahiers, ils sont séparés. Comment est-ce qu'ils n'avaient pas une sorte de colonne? J'en avais vu un. Vous écrivez d'un côté des choses et puis de l'autre côté de la page. Comment est-ce que vous organisez votre travail dans les cahiers?
Je crois que ça, c'est le...
Parce que c'est très important, les cahiers, puisque vous les trimballez partout avec vous.
Oui. Cette fois, je ne les ai pas apportés. Parce que je laisse les choses maintenant sur les trains et, et j'ai peur. Bien, je vais raconter une autre histoire. Je suis allée à un colloque en Italie et je sortais du colloque et on allait en voiture de Venise à Rome, et nous nous sommes arrêtés juste avant Rome, et il y a eu un bruit affreux dans la voiture, et il y avait une personne avec un malaise, qui avait cassé la fenêtre, et il a mis son bras là-dedans, il a pris le sac qui était sur le siège, dans lequel était mon cahier. Mon cahier pour possession. Et on a même mis des articles dans les journaux italiens, mais il n'est jamais revenu. Mais heureusement, la semaine avant de partir, j'ai été attaquée devant ma maison.
Décidément, mais quelle vie!
Mais quelqu'un m'a pris mon sac. Et je me suis dit, je ne vais pas apporter mon cahier en Italie sans le photocopier. Alors, j'avais la photocopie, bien que j'avais perdu le cahier. Et il ne manquait peut-être que 20 pages. Mais je crois que c'est un peu... il y a Coleridge. Les cahiers de Coleridge sont des chefs-d'œuvre. Mais aussi, je l'aime tellement parce que tout ce qu'il lit mène à quelque chose d'autre. Alors, je fais des citations comme lui. Et je me relis et je fais des connexions. Alors, le cahier consiste en citations et idées. Et je revisite, j'ai une idée que je ne rappelle pas en ce moment. Je sais où il est sur la page. Et je sais que c'est une connexion philosophique dans 1925 à peu près. Mais j'ai oublié quelques connexions. Mais je vais rentrer chez moi, je vais doucement regarder le cahier. Et j'ai un index aussi. Alors, je sais où sont tous les personnages des romans et de l'histoire et littéraire. Mmh. Et je peux tout trouver là-dedans. Et c'est bien parce que je pense trop et je lis trop. Et les cahiers sont arrangés en quelque sorte. Et la succession des notes dans les cahiers, si je lis vite ce que j'ai écrit très lentement, je trouve la forme d'un roman plus facilement.
Vous avez utilisé le mot connexion. Le fait de mettre en connexion différents pans de la réalité ou de la pensée ou de la réalité sensible avec la pensée, etc., c'est une chose qui est une caractéristique de votre travail, et c'est visiblement une partie de la vie qui vous intéresse beaucoup, la connexion, qui transformée en littérature fait de la métaphore aussi. C'est oui. Très excitant.
Oui. Je crois que tous mes romans sont des métaphores. Il y a un niveau où toute l'histoire, on repart vers l'idée qu'il n'existe rien. Et les connexions sont les métaphores pour ce rien, pour les choses qu'on peut regarder pour se dire non, il n'est pas que rien, il y a ça et ça et ça connecte. Mais j'ai des niveaux, ça devient très difficile à décrire, il y a des niveaux de connexion. Et tous mes romans ont une couleur dans ma tête, ou deux couleurs. Et quand j'ai trouvé la couleur, j'ai trouvé la forme du roman. Je sais que je sais maintenant ce que c'est. Et j'ai écrit dans, pas les cahiers que j'ai écrits, mais le cahier avant. J'ai dit, je l'ai trouvé. Les couleurs sont citron et une mauve très fade. On dit. Et je peux peut-être dire ça. Ce que, et là, les couleurs sont une métaphore. Il y a beaucoup de psychanalyse dans ce roman. Il y a le surréalisme et la psychanalyse. Et les deux ont des métaphores. Mais qui sait? Quelqu'un a dit que la description psychanalytique de quelque chose, crée d'une image, d'une œuvre d'art, remplace la chose avec la description. Si on fait la psychanalyse, on n'a plus la chose, on a construit une méthode d'écrire. Ça m'intéresse beaucoup parce que là, il y a des niveaux de métaphores et réalité, ça peut aller. Et puis, je me suis dit, j'ai très peur du psychanalyse. Et maintenant que je l'écris, j'ai encore plus peur.
Mais vous vous êtes quand même attaqué. Mais de toute façon, dans les sujets, les thématiques auxquelles vous vous attaquez, rien ne vous fait peur, puisque vous prenez tout ce qu'il y a de plus difficile. Vous prenez la psychanalyse, le surréalisme, vous prenez la pensée en général, vous prenez les mathématiques, qui, comme je le disais, ne sont pas très faciles à transformer en roman. Rien ne vous inquiète.
Mais il y a les choses qu'on ne peut pas décrire. Il y a les œuvres d'art des artistes qui résistent à être décrits, n'importe combien
on approche,
on essaye de les décrire.
Sauf en faisant, par exemple, quand vous avez écrit ces merveilleuses histoires pour Matisse, dont on parlait tout à l'heure, et qu'à ce moment-là, vous avez fait ce que vous dites, c'est-à-dire des métaphores. Vous n'avez pas décrit l'œuvre, mais vous avez écrit des histoires qui doivent avoir des couleurs, j'imagine, elles aussi, et qui sont une approche de cette œuvre, un autre objet créé à partir d'une œuvre. C'est ça, les histoires pour Matisse?
Oui, c'est ça. Et ce sont des histoires. Ce n'est pas moi qui ai créé le livre Histoire pour Matisse. Je pense tout le temps à Matisse comme à Coleridge. Mais c'était mon ancien traducteur français, Jean-Louis Chevalier. Et il a dit, je vais faire un livre, je vais faire une collection des contes où tu décris Matisse. Et je n'y avais même pas pensé parce que je pense toujours à Matisse. C'est les couleurs et c'est l'exactitude. Si on mettait quelque chose de 2 mètres plus à gauche, tout se désintègre. Et on peut dire ça avec les mots, mais faire le pareil avec les mots, c'est difficile et très intéressant. Mais j'aime tellement Matisse et je n'avais jamais pensé qu'il y avait des contes pour lui. Et mon éditeur anglais est devenu très, très fâché quand je lui ai dit que Jean-Louis faisait un livre comme ça. Et j'ai dit, maintenant, on peut faire en anglais aussi un livre pour Matisse, pourquoi pas. Et ça a commencé, j'ai tous ces très jolis petits cahiers de contes.
Je reviens à la question synesthésique, hein, des couleurs. Et quand la couleur arrive, à quel moment? La couleur qui enrobe un roman? À quel moment
assez
ça
tard, assez tard. Je pourrais avoir écrit peut-être 3 cahiers avant de trouver la couleur. Et ça, c'est une expérience. Quelqu'un a remarqué avec... je lisais toutes les lettres de Van Gogh et j'ai découvert pendant cette lecture qu'il n'y a pas de gender pour les couleurs.
Genre,
ouais. Et parce que je croyais qu'il faisait des fautes de français, mais du tout. Et je me suis dit, les mots de couleur sont une expérience différente de l'expérience des autres mots. Et en ce moment, il faut vous dire que je ne comprends absolument pas la musique. Alors, tout ce que je pense que les autres gens prennent de la musique, je prends de la couleur. Alors, je mets beaucoup de poids là-dessus. Je crois. Et je peux penser un conte, une histoire, en pensant une espèce de dessin de Matisse.
Ah oui?
En couleur et sans mots. Et je peux dire ça, mais vraiment décrire ça, c'est tout autre chose.
Mais vous le faites par les mots. Dans The Shadow of the Sun, qui est le premier livre de fiction que vous avez publié, et non pas écrit, parce que j'ai cru comprendre que vous en aviez écrit plusieurs qui avaient mal fini. Et dans ce livre-là, où il est question d'une jeune femme qui est en train de se demander comment faire pour trouver sa place à la fois dans la vie, dans la société, et puis dans la littérature, au fond, qui se demande quel destin va être le sien, qu'est-ce qu'elle va choisir. Il y a un personnage qui s'appelle Henry Severo, c'est moi qui fais ce bruit, qui a des, ce que vous appelez des attaques de vision, c'est la traduction française. Et ça se traduit, chez lui, par une attention inexplicable et une accélération de la vue.
Oui, j'oublie mes propres voilà. Livres. Il faut oublier un pour commencer un autre. Mais ça fait des difficultés dans des dialogues.
Mais non, mais là, voilà,
vous avez trouvé, c'est juste. Et c'est... en effet, c'est moi-même. J'ai des attaques de vision. Et c'est un peu effrayant. Et c'est...
Oui, parce que ça, quand vous le décrivez dans le livre, il y a un côté presque surnaturel, un peu inquiétant. C'est-à-dire comme si vous étiez une sorte de comment on appelle ça là, de transhumaine, là, maintenant on ne parle que de ça, d'humaine augmentée, c'est-à-dire dotée de pouvoir à des moments, dotée de facultés, de vision inquiétante.
Oui. Oui, Coleridge
était comme ça.
Était comme ça. Et Van Gogh, il a dû être comme ça, ce sont mes héros.
Et Matisse peut-être. Est-ce que je m'interromps une seconde pour vous dire que si quelqu'un dans l'assistance souhaite poser une question, vous pouvez le faire maintenant ou après. Ouais, il suffira de vous manifester. Ce genre d'attaque de vision, en tout cas, on a l'impression de le ressentir, nous, les lecteurs. Tout se passe comme si votre œil de romancière parvenait à percevoir en simultané pratiquement les formes, les couleurs, les mouvements infinitésimaux que vous décomposez jusqu'à en isoler l'essence. Et souvent, en vous lisant, je me suis demandé, est-ce que vous voyez la vie comme un tableau ?
Un tableau vivant.
Un tableau vivant.
Oui, oui. Non, pas parce que j'aime tellement les mots. J'aime les mots tout à fait autant que la vision. Et oh, je peux avoir des expériences pareilles avec des mots aussi. Il y a quelques poèmes, surtout de Wallace Stevens, qui a eu sans doute des visions comme ça. Est-ce que peut-être les visions, l'accélération, c'est une expérience en quelque sorte de la possibilité qu'il n'y a rien? On a commencé avec est-ce que le monde est réel? Et la vision, c'est une expérience à la fois très émouvant et ça fait peur. Et les choses sont... Oh, je ne parle jamais comme ça en anglais, mais les choses sont en même temps plus là et moins là. Il commence à disparaître dans la lumière et il n'y a rien là. Voilà, je n'aurais jamais dû commencer cette phrase.
Mais si, mais si au contraire, on veut, je voudrais juste, si vous pouvez, savoir un peu plus. Pour moi qui n'ai pas de vision.
C'est très compliqué. Je lis en ce moment, pendant le dernier jour seulement, j'ai découvert un écrivain qui s'appelle Hermann Broch. Et qui est extraordinaire, ce que j'ai lu pendant les deux derniers jours. Mais j'ai reconnu quelque chose parce qu'il y a un personnage qui regarde une femme et elle se dissout dans un landscape.
Un paysage.
Oui. Et il voit une montagne, il voit des arbres et elle n'est plus là. Et c'est très désagréable. Et ça, c'est quelque chose que je reconnais. Et lui, il est historien de culture et je crois qu'il attache cette idée à l'idée du moment de la disparition de la religion. Le monde devient trop parce qu'on n'a pas de moyens de l'expliquer ou de l'expérimenter.
De l'expérimenter.
Expérimenter, merci. Et ça, je reconnais aussi.
Mais pourquoi faut-il juste que pourquoi faut-il que le personnage disparaisse?
Dans lui.
Oui, chez lui. Pourquoi faut-il, puisque là, cette hypervision, ce phénomène d'hypervision, pourquoi oui. s'accompagne-t-il de la disparition de l'humain?
Je crois qu'il a une thèse. Il est historien de la culture et il est arrivé au moment où les gens n'ont vraiment pas de religion. Ils n'ont rien, alors ils ne savent pas quoi faire avec leur vision. Avec la religion, on pourrait se dire, oh, je vois la Vierge. Il essaie, ce personnage, de voir la Vierge et il n'y arrive pas parce qu'elle n'est plus possible. Alors il n'a que ces montagnes menaçantes. Mais je ne le lis que les deux derniers jours. Alors,
non, mais vous pourriez avoir une hypothèse à vous, puisque vous avez expérimenté le même phénomène.
Oui, oui. J'ai écrit des romans maintenant, des Victoriens jusqu'à moi-même. Et j'arrive seulement maintenant à décrire la vie où mes parents étaient vivants. Et je n'existais pas. Et là aussi, il y a quelque chose de faire avec la réalité. Parce que eux, ils étaient là. Et où j'étais, je n'étais rien. Et maintenant, j'ose. Parce que c'est sans doute mon dernier roman. Il devient si gros. Nous sommes arrivés à quelque chose de très, très difficile à décrire. Et Hermann Broch, il écrit la théorie là-dessus. Et des romans là-dessus.
Justement, vous dites que vous avez votre roman est en train de prendre des proportions importantes. Et comment est-ce que vous vous organisez pour que sur la durée, puisque vous avez choisi des continuités temporelles et narratives depuis le début, y compris à une époque quand vous avez commencé à le faire où ça n'était pas à la mode, à la fin des années 50, quand vous avez commencé à faire ça, c'était pas vraiment à la mode, et vous avez choisi ça. Et comment est-ce que vous faites pour tenir d'un bout à l'autre hein, des très gros livres très complexes et très riches comme cela?
Je dis toujours que ça ressemble à knitting.
Du tricot.
Oui, on a un seul fil, mais on continue à construire des. Et le fil et les métaphores. Les métaphores font la connexion. Et les métaphores sont souvent très proches de la vision imaginée. Et quelquefois très distantes et différentes. Et je crois que c'est ce que fait Hermann Broch avec ces montagnes qui n'existent pas. Ils arrivent dans la tête quand on n'a pas autre moyen de penser ce qu'on pense ou ce qu'on expérience.
Je me tourne à nouveau vers la salle qui captivait mes muettes. J'aimerais bien que vous nous parliez d'un pan de parmi toutes les choses qui vous intéressent, qui vont de la géologie jusqu'à la littérature, les insectes, les contes sont une part importante de votre inspiration et ça l'est depuis l'enfance. Oui, je faisais tout à l'heure allusion au livre des enfants et je voudrais bien que vous nous parliez de la manière dont les contes ont nourri justement votre ambition très très précoce d'écrire.
Oui, quand j'étais petite, je je dis maintenant que je n'aimais pas les histoires des petites filles comme moi. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais j'aimais beaucoup mieux les mythes, les contes, les choses irréelles. Et ça me donnait un grand plaisir. Mais il y a eu un moment dans la littérature anglaise où Angela Carter a dit le réalisme c'est fini, il faut utiliser la méthode de pensée des contes. Et elle a écrit des contes merveilleux. Et je l'ai rencontrée la première fois. C'était une réunion dans une tente. Et il y avait le poète Stevie Smith, qui était merveilleuse. Et elle était là et elle récitait ses poèmes. Et nous étions les invités tout autour. Et quand je suis sortie, il y a quelqu'un qui est venu après moi et m'a tiré par. Et elle a dit, toi tu es Antonia Byatt et ce que tu écris, ça n'ira jamais, c'est fini. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, et elle a dit, je suis Angela Carter. Et alors après cela, je l'ai regardé, je l'ai lu, je l'ai regardé un peu. Et plusieurs années après, nous étions des examiners.
Un jury,
oui, dans la faculté.
Un jury d'examen.
D'examen. Les maîtrises, les examens de maîtrise. Et je l'ai beaucoup aimée, elle était très gentille. Aussi, elle avait raison sur les contes en quelque sorte. On avait besoin de quelque chose qui n'était pas le réalisme anglais. Alors je lui ai dit qu'elle avait dit ça et que j'avais été très émue et malheureuse. Et comme toujours, on dit, elle m'a dit, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais pensé ça. Et nous sommes devenus amis. Mais elle avait écrit des contes. Moi, j'ai écrit des contes assez tard. Et je les ai mis dans d'autres espèces de romans. Mais je lui dois beaucoup pour avoir dit ça à cette époque. Et quand j'ai écrit Possession, j'avais mélangé les contes et un roman véridique, normal en quelque sorte. J'ai écrit une espèce de conte sur les contes. Mais pendant l'écriture de Possession, je me suis dit, comme Angela, qui était, je crois, déjà morte, je me suis dit, ce n'est plus possible. Je ne peux pas écrire. As-tu froid, dit-il. Non, je n'ai pas froid, dit-elle. Et maintenant, je fais beaucoup pour éviter exactement ces moments-là. Les romans historiques que j'écris sont un moyen d'éviter la narration moderne sur la vie moderne. C'est très intéressant. Pas une de mes filles aime les romans écrits pour les femmes sur le sujet d'être une femme moderne. Elle les déteste. Et papa, il doit y avoir des exceptions, mais moi aussi, j'ai beaucoup de problèmes à lire des études de la société moderne.
Mais pourtant, je comprends ce que vous dites, mais quand on lit la tétralogie dont on parlait tout à l'heure, c'est une étude, mais très différente de « As-tu froid, dit-il ?»« Non, dit-elle. »« Non, répondit-elle. » Mais c'est quand même une étude très, très en profondeur d'une société à travers son évolution intellectuelle, puisque c'est de ça qu'il s'agit, entre 1953 et puis la fin des années 70, hein, à peu près. Au fond, c'est quand même la société moderne, oui. C'est la nôtre.
J'avais commencé ça, et puis J'ai écrit Possession entre deux romans de la tétralogie. Et la tétralogie avait une forme très compliquée. Chaque roman, le premier et le quatrième devaient être des romans comme les romans de George Eliot, qui étaient réalistes et contenaient beaucoup d'autres choses et d'autres formes. Et les deux autres, je ne suis pas arrivée, mais j'ai voulu écrire un roman sans métaphore. Still Life voulait être un roman sans métaphore. Et le roman qui venait après serait un roman avec beaucoup de langage qui était trop et qui n'était pas véridique et avait trop de métaphores.
La tour de Babel?
Oui, la tour de Babel. C'était Babel. Mais c'était presque réussi parce que j'ai dû écrire dans Still Life. Ce roman a voulu être un roman sans métaphore, mais je trouve que je ne peux pas. Et ça, c'est presque la seule fois que j'ai écrit « je » comme écrivain. Et c'est... Mais quand je suis rentrée aux quatre romans après Possession, j'ai trouvé très difficile de continuer à écrire, dit-il, pensait-il. Et maintenant, j'ai le même problème.
Pour revenir aux contes, les contes ont eu, donc à part que Angela Carter vous a fait découvrir quelque chose en vous tirant par le bras, mais au fond, qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous les avez découverts tout enfant, vous avez beaucoup aimé les légendes nordiques, et les contes de Grimm, vous avez détesté Andersen.
Oui, je l'ai aimé aussi. C'était un génie.
Maléfique.
Maléfique, oui. Et il n'aimait pas du tout les enfants. Je trouve que les écrivains de contes n'aiment jamais les enfants. Non, il avait très peur des enfants. Les contes ont une forme. Et j'avais cru. Il y a une société en Angleterre qui lit les contes, qui fait des performances. Ils ne changent aucun mot là-dedans. Les contes sont racontés et pas écrits. Et ces gens trouvent la forme. Et ils disent qu'on ne peut pas trouver des contes modernes. Et moi, j'ai essayé parce que on reconnaît la forme. Mais j'ai écrit un conte sur la princesse aînée, sur cette quête que mènent les trois enfants du roi. Et on sait que la plus jeune va réussir et que les deux autres. Et je me suis dit, je suis l'aînée de trois filles. Je ne sais pas pourquoi il faut se soumettre à cette histoire qu'on connaît déjà. Alors j'ai écrit une femme qui est partie de la route prescrite et elle est allée dans la forêt où on lui avait dit de ne pas aller. Et ça m'a donné du plaisir parce que j'ai utilisé la forme ancienne. Mais j'ai fait quelque chose de différent. Mais je crois que ces puritains des contes n'auraient pas aimé ce que j'avais fait.
Quand on vous lit, on se rend compte qu'il y a une omniprésence de la nature et des animaux. Enfin, disons, c'est très très présent dans vos livres, la nature et les animaux. Je pense à La fin des dieux, mais il y a beaucoup d'autres livres, puisque... soit parce que la nature, comme dans Des anges et des insectes, est au centre, soit parce qu'elle est souvent là. Et très souvent, justement, la nature est décrite, en tout cas l'atmosphère dans laquelle on baigne quand on est votre lecteur, c'est une atmosphère qui est proche de celle du conte. Il y a quelque chose d'un peu magique.
Oui, c'est proche d'une religion, ce que je pense sur la nature. Et je crois qu'il faut protéger les autres espèces, qu'il faut essayer de garder toute la vie qu'il y avait, pas seulement les êtres humains. J'ai été, je ne trouve pas un mot, appalled. J'ai épouvanté, merci, de trouver que ma petite fille qui vient de quitter Oxford, je lui disais, nous avons une maison dans les Cévennes, et quand nous sommes arrivés dans les années 80, il y avait des insectes partout, partout. Et maintenant, il n'y en a rien. Les bêtes qui traversaient mon terrasse n'existent plus et ils ne volent pas. Et elle ne comprenait pas du tout pourquoi ça me faisait peine. Mm-hmm. Elle est enfant de Londres. Elle a étudié la littérature à Oxford. Mais elle n'avait jamais vu toute cette vie. Et déjà, quand j'ai commencé à voir toute cette vie dans le sud de la France, ça disparaissait, mais c'est parti maintenant. Et ça, je trouve ça écœurant. Mais c'est très bien de rencontrer quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Et je fais partie en
2000.
Oui, d'un colloque à New York. Et il y avait des gens qui pensaient, qui parlaient du futur du monde, du futur de l'architecture, du futur de la politique. Et moi, j'étais là pour parler de la futur de la littérature. Mmh. On n'avait rien sur la nature. On n'a pas du tout discuté ce qui allait se passer dans le monde naturel. C'était un colloque dans une ville, sur les villes. Et ça m'a... Il faut que j'écrise quelque chose là-dessus. Ça m'a écœuré. Oui. J'ai dit, mais vous parlez du sexe, vous parlez des enfants, vous parlez de la politique, et rien sur la nature. Et ils étaient déjà là, à New York. La nature n'était pas là.
Elle était déjà absente.
Oui.
C'était l'inverse de l'hypervision que vous décrivez, où le paysage reste et les humains disparaissent. Et là, c'était l'inverse. Le paysage
oui,
avait disparu.
C'est ça.
Et tous les humains étaient là.
Et nous avons un monde humain avec des machines très, très belles et très intéressantes que nous avons créées. Mais les autres bêtes... Et je pense de nous comme des bêtes comme les autres, en quelque sorte. Je ne verrai pas. Je ne serai pas là pour voir quand il n'y a plus d'insectes.
Qui sait? Qui sait s'il n'y aura plus d'insectes? Peut-être. L'histoire est tellement surprenante.
Oui,
après tout.
Qu'est-ce qu'elle s'appelle, la dame qui écrit en Californie? Elle a décrit un monde où toute la société humaine...
Une romancière?
Oui, très connue.
Un joker dans la salle, non?
Je n'ai pas assez dit, mais...
Bon, mais écoutez... On laisse la chance à une dernière, si quelqu'un se sentait d'une question, non. Je crois qu'il faut qu'on laisse la salle. Merci beaucoup, Antonia.
Merci à vous.
Très bien. c'est grand secret.